Faisons le point avec notre ami Jean-François Lépine. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
Bon, la centrale nucléaire évidemment, puis aussi les bombardements et les Russes qui progressent jour après jour.
Ouais, quand on entend le témoignage de Tetiana, ceux qui ne croyaient pas à quel point la situation dégénérait, mais je pense qu'on le comprend. Moi, ce qui me frappe aussi dans son témoignage, c'est qu'elle dit on s'aperçoit qu'on vivait dans une civilisation fragile. On découvre, après 8 jours, là, on est au 9e jour, un pays en grande partie dévasté en 8 jours et où la terreur s'est installée au sein des populations, un changement qu'on, je pense pas que personne pouvait deviner que ça se passerait de façon aussi catastrophique. Et puis, l'affaire de la centrale nucléaire est une illustration de tous les débordements qui peuvent arriver quand une offensive est aussi massive que ça. Puis c'est ça qui est probablement inquiétant. Ça a commencé par un bombardement dans l'édifice administratif. Votre expert nous a dit à quel point l'édifice administratif, c'est quand même là où on gère le réacteur. Alors, c'est crucial à moyen terme. C'est peut-être pas directement le... Et puis, bon, les réacteurs sont protégés à cause de leur structure. L'Agence internationale de l'énergie atomique dit aujourd'hui que les réacteurs n'ont pas été atteints. Il n'y a pas de signe dangereux non plus de radiation. Donc, est-ce que ça a été une frappe volontaire? Si c'est le cas, le président Zelensky a dit « Aucun pays n'a jamais frappé une centrale nucléaire parce que c'est au-delà de la petite ville de Zaporizhia. Au-delà de tout ça, c'est l'Europe, c'est la première centrale nucléaire d'Europe. Alors, les dommages pourraient être terribles. Comment on en arrive à faire des choses comme ça? Encore une fois, tout ça se passe, là. Cette ville-là est au nord de la Crimée. C'est dans cette vaste zone que je vous décrivais hier, là, où l'armée russe avance à partir de l'est vers l'ouest, le long de la frontière sud de l'Ukraine, pour isoler l'Ukraine en coupant ses liens avec la mer Noire. Et l'objectif de l'armée qui avance, c'est d'aller jusqu'à Odessa, qui est le plus grand port sur la mer Noire de l'Ukraine. L'idée, c'est vraiment de contrôler la frontière sud, l'accès à la mer Noire, isoler l'Ukraine du nord à l'est au sud. Et quand on fait une offensive comme ça, il y a des risques de dérapage qui sont extrêmement graves, à part de tout ce qui se passe pour la population, la destruction des infrastructures urbaines et tout ça. Mais on a atteint aujourd'hui un niveau là, de danger qui a été... heureusement, ça s'est stabilisé, semble-t-il. On ne sait même pas qui contrôle la centrale, mais ça illustre les dangers de cette situation-là. C'est terrible.
Et entre-temps, malgré les sanctions économiques, la condamnation du régime de Moscou sur la scène internationale, Vladimir Poutine est déterminé. Il a dit hier, « Tout fonctionne selon mon plan ».
Oui, et puis je pense que, d'abord, tous ceux qui, encore une fois, disaient... les Russes sont trop lents, ils ont des problèmes, etc., etc. Moi, j'ai toujours dit, quand on masse 200 000 hommes autour des frontières d'un pays, on peut pas reculer, c'est signe qu'on y va. Et en 8 jours, le balancier est passé complètement du côté des Russes sur le terrain, partout où ils sont, nord, est, sud. Et ça progresse à une vitesse rapide. Et lui-même dit qu'il veut en finir. Alors, comment ça va s'arrêter? Ça, c'est la grande question dans tous les journaux, tous les médias ce matin. Comment ça va s'arrêter, surtout avec le choc de la centrale nucléaire? Les États-Unis ont beau dire, on envoie 10 milliards d'aides d'urgence à l'Ukraine, mais il est trop tard. Comment on va acheminer tout ça? Alors, moi, aujourd'hui, je me pose des questions sur le degré de préparation. Si les États-Unis savaient à quel point, comme ils le disaient, l'offensive allait être massive, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose de plus pour préparer davantage les Ukrainiens à cette offensive-là? Et puis surtout, jusqu'où là on va tolérer que ça se passe? Hein? Parce que Poutine a envahi la Crimée et le Donbass en 2014. Là, il envahirait, il détruirait l'Ukraine en 2022. Quelle est la ligne rouge de notre... au sein des alliés? Est-ce qu'il y en a une ligne rouge? C'est tout ça qui est en question aujourd'hui. Le président Zelensky, et puis Tetiana l'a évoqué aussi, les Ukrainiens disent « Interdisez le survol de l'espace aérien de l'Ukraine ». Ça, c'est une mesure qu'on peut adopter. On l'a fait en Libye à l'époque, on l'a fait à d'autres endroits où il y avait des zones de guerre. Mais ça veut dire qu'on intercepte des avions russes ou on intercepte des missiles russes. On peut même aller jusqu'à détruire la source des missiles, le point de départ des missiles. Mais ça, c'est la limite de la provocation que les Alliés ne veulent pas franchir parce qu'ils ont peur à la provocation nucléaire brandie par M. Poutine. Et c'est le point, là, le point tournant de tout ce qui se passe actuellement et qui nous fait nous poser la question, quelle est la ligne rouge et comment on va... Si ça se produit jusqu'à la fin, ben, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir?
Mais c'est très inquiétant tout ça. On a beau nous dire qu'on a des corridors humanitaires d'évacuation, et bon, mais on sent la cadence russe et on sent aussi que Poutine est déterminé à aller jusqu'au bout.
Ouais, hier, il y a eu un accord, semble-t-il, pour qu'il y ait justement des corridors d'évacuation. Alors là, l'étape, là, je l'ai décrite un peu hier quand je parlais de la Tchétchénie en 1999, et les Russes ont fait la même chose avec la Syrie autour de la ville de Alep, par exemple, après 2012. L'idée, c'est qu'à un moment donné, là, après avoir bombardé et détruit le plus possible, on sort les femmes, les enfants, les personnes vulnérables des zones urbaines. Et donc, c'est ça qu'on ferait maintenant. Et là, après ça, ben, c'est la curée, comme on dit. On se lance à l'intérieur des villes. Et puis, c'est la guerre urbaine, la guérilla urbaine. Et ça va durer le temps que ça durera. Mais c'est comme ça que, normalement, on a terminé les choses en Tchétchénie en 1999, en Syrie, dans certaines villes comme Alep, avec des villes complètement détruites. Mais le problème finalement résolu après des jours et des jours de combat. Alors, ça, imaginez là, le nombre de personnes déplacées. Là, ça s'en vient, là, une deuxième vague de déplacement au cours des prochains jours. Si la tactique russe continue, on va évacuer les villes, puis là, on va se lancer dans les villes. Et ça va être catastrophique.
Est-ce que tu crains que Poutine déraille à un moment donné et que des États voisins, des États baltes, soient aussi ciblés par...
Oui, c'est ça. Ça, c'est le... On parle de débordement possible et tout ça quand on fait des opérations aussi rapides et d'une telle ampleur. Si on regarde, j'invite les auditeurs à regarder la carte là, à côté du Bélarus, au nord-ouest de l'Ukraine, il y a ces trois petits pays, Lituanie, Estonie, Lettonie, qui sont des pays qui se sont affranchis de l'Empire soviétique très tôt, après la chute de l'Empire soviétique, et qui sont maintenant membres de l'OTAN. Ça veut dire... Et donc, la frontière est extrêmement fragile. M. Poutine a même dit que les troupes du Bélarus s'engageaient aussi dans l'offensive. S'il y avait le moindre débordement du côté des pays baltes, donc le long de la mer Baltique, là, l'OTAN serait, en vertu de sa constitution, obligé d'intervenir. Donc, ça serait un affrontement qui serait provoqué. Est-ce que... C'est sûr que Vladimir Poutine connaît ce risque-là, mais encore une fois, dans une offensive qui n'est pas totalement contrôlable, s'il y avait un débordement du côté de ces trois pays-là, qui se sentent menacés, hein, qui ont rappelé leur entente avec l'OTAN, on a vu même le Canada envoyer des troupes dans ces pays, dans cette région-là, pendant le conflit, là, récemment. Alors, s'il y avait le moindre affrontement, ça pourrait déclencher une guerre ouverte. Et c'est ce que les Alliés essaient d'éviter au plus tôt, mais c'est fragile.
Merci, Jean-François.